Le grand témoin.
Bonjour, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver tous les dimanches pour vous présenter celui qui sera notre grand témoin du jour dans ce studio avec moi, Antoine Boyamba Okombo, affectueusement appelé Yaatou par ses proches, et celui que nous allons vous présenter, monsieur le vice-ministre chargé des Congolais de l'étranger. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci de m'avoir invité, madame.
Alors, avec vous dans notre entretien, nous allons vous présenter, comme je l'ai dit, auprès des nombreux auditeurs des Radio Capi qui nous suivent en ce moment, partout en RDC, même à l'étranger, grâce à notre site internet www.radiocapi.net. Nous parlerons du ministère que vous gérez, ministère des Congolais, de l'étranger. Ils sont nombreux, éparpillés à travers le monde. Mais l'actualité aujourd'hui, c'est l'enrôlement de ces Congolais. Pour la première fois, ces Congolais vont voter. On va en parler dans cette émission, mais avant cela, on va faire un très grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Vous êtes né à Kinshasa?
Oui, je suis né à Kinshasa, à Léopoldville à l'époque.
Quand?
Avant l'indépendance. Quelques mois avant l'indépendance. Donc, je suis né ici à Kinshasa, qui s'appelait Léopoldville, dans une famille nombreuse.
Et c'est à Kinshasa où vous avez grandi?
J'ai grandi à Kinshasa. J'ai fait mes études primaires et secondaires ici à Kinshasa. J'ai été au collège Albert Ier, qui est maintenant au collège Boboto. Donc, j'ai d'abord fait la maternelle au lycée Sacré-Cœur, derrière là où il y a l'actuel ISP Gombe. On appelait ça le petit lycée. Et puis après, j'ai été à l'école primaire au collège Albert Ier. J'ai fait l'école secondaire en deux parties. La première au collège Saint-Raphaël, à l'Imité. Et puis la seconde, donc pour la terminale, j'ai fait ça au collège Armé du Salut, non loin d'ici. Donc j'ai eu mon diplôme d'État. Après, c'était les années tumultueuses, c'est-à-dire fin des années 70, 78, 79. Alors, il y avait trop de problèmes au pays à l'époque de président Mobutu. C'était les deux guerres du Chaba, donc Katanga actuel, et sur le plan social, économie sociale, le pays rentrait en difficulté. Et dans les universités où on s'était fait inscrire, il y avait tout le temps des grèves, des manifestations, et il y a eu presque 3 ou 4 années successivement des années blanches.
À cause de ça, vos parents décident de vous envoyer en Europe?
Voilà, donc je suis allé en Europe, en France, pour faire les études universitaires que j'ai accomplies là-bas. Je suis diplômé 3e cycle en sciences politiques de droit et relations internationales. J'ai un master en histoire et une licence en administration économique et sociale. Donc voilà un peu mon cursus scolaire et universitaire.
Vous avez grandi dans quelles conditions?
En tout cas, c'était une famille aisée, pas millionnaire, mais une famille très aisée, une famille d'un papa qui était très intellectuel. Il était classé évolué déjà à l'époque coloniale, donc avec beaucoup de préceptes, tant religieux, sur le plan religieux que traditionnel, parce que nous sommes issus d'une famille de chefs coutumiers. Mon grand-père, mon arrière-grand-père furent des chefs coutumiers, donc mon nom Okombo vient de celui qui était chef coutumier à Bumba, à Basalaka, précisément, dans la Loïka.
Dans l'ancienne province de l'Équateur?
Oui, à l'actuelle province de la Mongala. Uh-huh. Donc, du côté de mon père, je suis là, de là. Du côté de ma mère, je suis aussi une partie de la Mongala avec l'Issala et une partie du Sud-Ubangi avec Akula Bujala. Donc, voilà. Donc, j'ai grandi dans un milieu aisé. C'est pour le dire. Et pour la preuve, j'ai été dans les meilleures écoles du pays qui ne prenaient que les enfants des gens qui étaient un peu haut placés. Donc, j'ai baigné dans ce milieu-là, dans un milieu politique aussi. Mon père était dans la politique. Jusqu'en 1967, quand le président Mobutu avait décidé de dissoudre les deux chambres, Assemblée nationale et Sénat, et puis aussi les conseils municipaux, il avait dissous pour mettre le MPR parti État. Alors, mon père avait décidé que c'était une hérésie, c'était la fin de la démocratie politique telle que lui il pensait, et il a quitté la politique et il a réintégré l'office de transport du Congo à l'époque au Traco, au Natra et maintenant SCPT, je crois.
SCPT, oui.
Voilà.
Quel est le souvenir qui vous a le plus marqué pendant votre enfance?
Les souvenirs?
Oui.
Bon, maintenant que je suis homme politique, je suis membre du gouvernement, j'ai plusieurs souvenirs, mais sur le plan politique, c'est quand je voyais tous ces grands messieurs venir à la maison, comme le premier ministre Cyril Adoula, et tant d'autres ministres, le ministre Guengué, le président du Sénat à l'époque, M. Moudiaï, donc papa Moudingaï plutôt, papa Moudingaï. Donc je voyais, tout petit garçon, je voyais ces grands messieurs. Bon, à l'époque, il n'y avait pas encore la télé, mais on en parlait à la radio, dans la presse écrite. J'ai été un peu baigné dans ça, et puis aussi mes oncles, côté maternel.
Vous avez rêvé de devenir comme eux?
Vous savez, bon, vous êtes baigné dedans. Du côté de ma mère, il y avait aussi deux de mes oncles qui ont été ministres. ministre. Alors, bon, j'ai baigné un peu dans ce genre de milieu, mais on ne se focalisait pas seulement sur la politique, mais on parlait de tout. C'était un milieu de famille où, c'était vraiment un milieu très intellectuel, mon milieu d'enfance. Donc, papa nous amenait au cinéma, nous amenait à la foire de Kinshasa à l'époque, pour voir le cirque de Moscou. Donc, on allait au restaurant, on allait ceci.
C'était la belle vie.
Oui, c'était la belle vie, oui, c'est vrai. C'était la belle vie, donc... J'ai eu, Dieu merci, la chance de grandir dans un milieu un peu privilégié par la force de mes parents. Et Dieu leur a permis de bien m'élever. Voilà.
Vous êtes marié?
Oui, j'ai des enfants.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Je n'aime pas, je déteste l'hypocrisie. Ça, c'est la chose qui me... Il n'y a rien qui me met... autant en colère quand j'ai en face de moi quelqu'un qui raconte des histoires, qui fait semblant d'aimer les autres alors qu'il les déteste. Moi, je suis un homme direct, donc moi, j'aime les rencontres, les rapports directs. On peut ne pas être d'accord, mais il faut qu'on se le dise en face qu'on n'est pas d'accord.
Même si ça choque?
Oui, même si ça choque, oui. Moi, je suis un peu de ce style-là. Même si ça choque, je voudrais qu'on se dise en face, voilà, il y a ça, et puis on va essayer de trouver une solution. Pas de rancune, mais on se dit les vérités en face. Faut pas lambiner, essayer de tourner. Moi, je dis aux gens, moi, j'avais choisi le camp du président Kabila depuis le père et le fils. Eh bien, quoi qu'il en soit, je suis là. Je peux ne pas être d'accord avec certaines orientations, mais je discuterai ça à l'intérieur du système. Et nous allons trouver... la solution dans le système, mais je ne vais pas aller me...
Est-ce que là, vous vous attaquez à ceux qui critiquent un peu comment ça fonctionne au sein de la MP?
Non, vous savez, bon, il y a des gens qui disent que c'est ça la politique. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment les gens s'accommodent. C'est comme si on est en Europe, là où il y a quatre saisons. Voilà. Kabila, très bien, oui, je soutiens Kabila. Kabila, ceci, je suis contre Kabila. Donc voilà, Kabila, je rejette encore Kabila, demain je le quitterai. Donc voilà, c'est ça, moi j'ai du mal. Je reste constant, comme on dit, droit dans mes bottes. J'ai fait un choix et je reste sur ce choix.
C'est quoi votre plat préféré, Antoine Boyamba?
Bon, je suis plus poisson que viande. J'aime beaucoup les poissons, de toutes sortes d'ailleurs. J'aime beaucoup le poisson. J'aime manger aussi du poisson fumé avec des épinards dedans. Et aussi, j'aime le pondou comme beaucoup de gens de ma tribu. Ouais, ça, je peux même manger ça tous les jours s'il le faut. Mais avec des variantes, les différentes sortes de poissons. Vous savez, le fleuve Congo, on n'exploite pas assez la diversité qu'il y a dans ce fleuve au niveau halieutique, c'est-à-dire la pêche. Et moi, je suis un enfant du côté de ma mère, c'est une famille de pêcheurs. J'aime beaucoup manger le poisson.
Vous aimez la musique?
Énormément. La preuve, hier, dans mon bureau, j'ai reçu Evo Loco, qui a été une star dans les années 70-80. Ça nous a bercé notre enfance. Et j'ai beaucoup aimé Papa Wemba aussi, parce que c'était tout sur notre enfance, notre adolescence, l'apprentissage de la vie, la SAP. Quand on était arrivé en Europe, Papa Wemba, c'était ça aussi. Donc j'aime la nouvelle génération, j'aime beaucoup Fally Ipupa, Koffi Olomide, j'écoute beaucoup aussi, donc voilà, j'aime bien la musique. J'ai des choix assez variés, j'aime la musique aussi traditionnelle, j'aime bien quand j'entends la musique traditionnelle des Mbouza, la musique traditionnelle des Balouba aussi j'aime bien, c'est agréable à l'oreille, et celle de Bakongo aussi j'aime bien écouter les chansons traditionnelles. Sur le plan international, j'aime tout.
Mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir en ce moment? Une chanson qui vous ferait plaisir en ce moment qu'on peut vous proposer?
En ce moment, je suis en train d'écouter le nouvel album de Voloco. Et il a une chanson qui s'appelle Valentine. Adieu Valentine.
Adieu Valentine.
Ah oui, ça, cette chanson, ça me touche. Ça me prend. J'aime beaucoup cette chanson.
Alors, on va demander à Paul Madianiama de nous proposer la chanson Valentine des Voloco pour le plaisir de M. Antoine Boyamba Okombo, que nous recevons dans cette émission. Il est vice-ministre des Congolais de l'étranger, mais je crois que la chanson fera plaisir également à tous les auditeurs de Radio Capi qui nous suivent en ce moment partout en RDC. On se retrouve juste après cette petite pause musicale.
La 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 fikali ngai moko e Ade Valentine De Valentina Jo.
Makolette Luambi, Sole Equatoria Nami, Yaza Makwanga.
Adieu Valentine, ne pleurons pas de, il n'y a plus de espoir. La 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 la. Je t'enverrai mes fils, dis-moi jamais un chien là-bas. Adieu la malédiction, adieu le péché. T'as voulu ainsi, que ça soit ainsi. Ainsi soit-il, amen. Oh la 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 la. Adieu les repas de la nuit, ma colombe est par terre et bas, on se verra plus jamais, j'ai perdu la portée de ma voix, la 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 la.
Maman Claudia Sassou.
Ma tangue est si la caille, c'est que si la caille elle est là, c'est qui est sous qui a wangouya. Au revoir, t'as tout ce qui m'a fait, mon amour. Adieu Valentine, adieu.
Mon général, tu dis
toi. Toi, tu n'aurais pas dit l'heure. Elle viendra plus l'étoile à polaire. Ma boussole est partie, ma voix noire. Elle viendra plus jamais. Et toi, tu n'aurais pas dit l'aurore. Elle viendra plus l'étoile à polaire. Ma boussole est partie, ma voix noire. Elle viendra plus jamais. S'il te plaît, maman, laissez-moi partir, s'il te plaît, maman. Un jour je reviendrai sur ma terre, maman. Une décision ferme et prise, maman. Le voyage sera long. Maman, ne pleure pas, maman.
Bon,
ne priez pour moi.
Bienvenue, Kindogo.
Maman, ne pleure pas, maman. Ne priez pour moi.
Ton fils, Jeannot Lumata.
Mon arbre des ravins est parti. Le mire du roi est parti. Mon miroir,
Serge Bouya.
Je t'oublierai jamais, maman. Tiens bien, ça dit bien. Il est parti, mon fils, sans même mot. Sans dire mot. Sans même mot, sans même mot, sans même mot, sans même mot, sans même mot.
La muette, au revoir.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kelly Kouté sur Radio Okapi.
Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Antoine Boyamba Okombo. Il est vice-ministre des Congolais de l'étranger. Monsieur le vice-ministre, c'est depuis 2014 que vous êtes à la tête de ce ministère, décembre 2014 pour être précise.
L'ordonnance a été signée le 7 décembre 2014 par son essence, monsieur le président de la République.
C'est donc votre premier poste ministériel. Hein?
Oui, c'est mon premier poste ministériel et je ne peux que remercier le chef de l'État et le Premier ministre, parce que l'ordonnance dit sur proposition du Premier ministre, le président de la République ordonne l'article 1er, sont nommés tel, 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 et je ne peux que le remercier et rendre grâce à Dieu, parce qu'il y a des gens qui ont peut-être beaucoup plus de qualité que moi, mais c'est Dieu qui choisit, qui met la main, qui inspire. Et Dieu a inspiré le président de la République et le Premier ministre. Ils ont porté leur choix sur ma modeste personne. Dans un pays de 80 millions d'habitants, si on vous choisit, vous ne pouvez que rendre gloire et grâce au Seigneur.
pourquoi le choix sur vous? Parce que vous avez vécu longtemps en Europe, vous connaissez un peu les réalités des Congolais qui sont à l'étranger.
Bon, vous savez, ça c'est la question que vous posez à ceux qui m'ont choisi.
Vous ne leur avez pas posé cette question.
On ne pose pas ce genre de questions parce que c'est une mission. C'est une mission. On est des soldats. Je suis dans la politique, je suis né dedans et j'y vis, j'y travaille. Et c'est une mission. Et le chef de l'État, dans ce moment-là, il sait pourquoi. Il prend le soldat Antoine Boyamba pour l'envoyer dans tel front. Il m'aurait envoyé aux finances, j'irais. Il m'aurait envoyé à l'enseignement, je serais parti. Il m'aurait envoyé à la culture, je serais parti. Il m'aurait envoyé au travail vraiment social ou à l'intérieur ou n'importe où, je serais parti remplir le rôle, le travail qu'il attend de moi. Bon, ça joue aussi le fait que j'ai longtemps travaillé en Europe, enfin à l'étranger, et aussi d'être ici à cheval entre les deux. J'avais déjà la vision de ce que lui voulait. Je suis quand même écrivain, auteur, j'ai écrit le livre Regard sur la RDC, dont un des chapitres parle du chef de l'État, un homme, un destin. Et bon, j'ai parlé aussi du pays, une économie diversifiée, voilà. Donc, quelque part aussi, j'ai mené aussi beaucoup d'actions en faveur de notre pays, de lobbying, ainsi de ci, de cela. Donc, je ne sais pas.
Vous avez mené ces actions où?
Je les ai menées à partir d'ici ou quand je suis à l'étranger. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui a été parmi les critères. Je ne saurais pas exactement dire, voilà, c'est sur base de ça que j'ai été choisi. Ça, comme on dit, les voies du Seigneur sont impénétrables. Et je ne me substituerai pas au chef de l'État pour dire, voilà, c'est pour telle raison. Lui, c'est.
Avant d'être à la tête de ce ministère, déjà dans les années 90, vous avez travaillé avec l'ancien Premier ministre Olunda Bululu.
Oui, j'avais déjà terminé mes études universitaires. Et puis, c'était l'ouverture politique. Au Zaïre, à l'époque, le président Mobutu avait fait cette ouverture politique, fin du monopole du parti Imper, ouverture politique. Et il avait choisi un Premier ministre, que je ne connaissais pas, qui ne me connaissait pas non plus. Et voilà, j'ai été un peu recommandé, je suis allé. Et voilà, il a porté son choix sur moi. J'étais jeune. Et ça s'est très très bien passé. J'étais même parmi ces gens de confiance parce que ils savaient que j'étais très travailleur, matinal, et j'écrivais beaucoup, je faisais beaucoup de rapports. Et puis il aimait beaucoup mon style direct, de lui dire les choses telles que je pensais, de lui dire les choses quand je voyais que quelque chose était positif, je disais que c'était positif, et quand je savais que ça n'allait pas, je ne m'empêchais pas d'y premier. Telle voix, je trouve que c'est un peu périlleux. Et ça, il appréciait beaucoup, parce que c'était un homme droit. Monsieur Lunda, Vincent de Paul Lunda Bululu, actuellement, il est terrassé par la maladie, mais c'est un des hommes, en dehors de mon père, un des hommes les plus droits que j'ai rencontré dans ma vie. Ça, je peux le dire.
Vous êtes fier d'avoir travaillé
avec lui. Oui, je suis très fier.
D'avoir travaillé avec lui.
Je suis très fier d'avoir travaillé avec lui. Je dirais que c'est un savant. Le pays perd beaucoup de ne pas profiter de sa sagesse, de son intelligence, par cette maladie qu'il a un peu clouée.
Alors, le régime de Mobutu tombe, l'Abdel arrive. Vous soutenez Laurent-Désiré Kabila?
Oui, j'ai soutenu Laurent-Désiré Kabila parce que je voyais... Bon, quand on est à l'étranger, on vit, vous sentez, vous avez... Quand ça ne va pas dans votre pays, il y a la honte qui tombe sur vous. Que vous aimez ou pas le pouvoir. Quel que soit, hein, que vous aimez ou pas le pouvoir, c'est chez vous. Vous n'allez pas dire à un Français ou à un Belge ou à un Allemand que oui, ce qui se passe là-bas ne me regarde pas. Lui dit seulement voilà le Congo, voilà le Zaïre à l'époque. Donc nous, on a un peu souffert. Autant on était content au début de président Mobutu, il y avait un peu le prestige, dès qu'on disait Zaïrois, on disait ah Mobutu. Et puis au fur et à mesure, ça commençait à se déliter, ça commençait à perdre un peu de sa. Et nous qui étions déjà des étudiants un peu plus intellectuels, un peu plus engagés politiquement, on a commencé à sentir un peu l'opprobre se jeter sur nous, sur la communauté. Et quand le musée Laurent-Désiré Kabila a commencé, bon, il avait déjà sa lutte depuis longtemps, on avait des échos parce qu'il y avait quelques aînés parmi nous qui étaient proches de Laurent-Désiré Kabila, rebelles. Mais on se disait un peu, est-ce que ce n'est pas ce n'est pas un rêve qui ne se réaliserait jamais. Parce qu'il nous dit, ah oui, Laurent Désiré Kabila est arrivé, il est en Europe, là, on va le voir, tout ça. Et puis il nous dit, ah Mobutu est tellement fort, est-ce qu'ils pourront y arriver? Et puis, quand on a vu la tenacité de Mzé, son sens nationaliste, le patriotisme qu'il animait, dans ses discours, dans tout ce qu'il disait, moi j'avais décelé le sens élevé du sacrifice pour le pays, pour la grandeur du Congo. Et le nationaliste que je suis, j'ai tout de suite adhéré. Et j'ai apporté mon soutien.
Vous avez apporté votre soutien comment?
Mais j'ai fait beaucoup d'actions de lobbying avec d'autres, hein, je n'étais pas le seul. On a fait, par exemple, nous avons été notre groupe, hein, avec des gens comme le Deon Kousseau, qui fut vice-gouverneur du Bas-Congo. Nous avons été parmi ceux qui sont allés voir les autorités françaises pour soutenir, pour leur demander d'apporter un soutien au régime naissant de Laurent Désiré Kabila. Donc on l'a fait, il ne nous connaissait pas, nous non plus, enfin on connaissait, c'est le président, mais connaître dans le sens beaucoup plus intime, non. Mais on avait senti que son combat était noble, et nous avons apporté notre soutien. On a fait beaucoup de lobbying, tant dans les milieux politiques en Europe, ou dans les milieux médiatiques aussi. Donc c'était ça.
Et c'était quoi votre sentiment lorsque Laurent Désiré Kabila a été assassiné?
Oh, c'était dur. Et le comble, c'est quoi? Moi, j'étais à Kinshasa. Je suis arrivé la veille, le 15 janvier, au soir. Oui, le soir, le 15 janvier. Et le 16, le Mzé est assassiné. Vous imaginez, pour un partisan de ce grand nationaliste. Oui, j'ai même eu des larmes. Oui, j'ai eu même des larmes.
C'était trop tôt.
C'était trop tôt, c'était terrible. Et bon, voilà, j'ai encore de l'émotion quand j'en parle aujourd'hui.
Alors Antoine Boyamba, vous dirigez le ministère des Congolais de l'étranger. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur combien des Congolais vivent à l'étranger?
On n'a pas de chiffres exacts. Nous sommes dans les approximations. Certains parlent de 8 millions.
Certains
chiffres parlent de 8 millions, c'est-à-dire des évaluations. Ce n'est pas vraiment des statistiques scientifiques, mais ce sont des évaluations. Parce que vous ne pouvez pas imaginer qu'il y ait autant de Congolais, par exemple, en Afrique, dans les pays africains. On m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y aurait à peu près 500 000 Congolais au Kenya.
Vous vérifiez ça? On a eu l'ambassade.
On a eu l'ambassade au Kenya, mais ça, c'est aussi les autorités kenyanes qui nous ont un peu glissé ça. Vous imaginez, vous rendez compte? Mais là, nous sommes en train, avec la CENI, de faire le travail. Et dans pas longtemps, nous saurons exactement combien, à peu près, hein, pas au centième près, mais à peu près, nous saurons combien de Congolais il y a à l'étranger.
Donc, pour le moment, on ne sait pas estimer le nombre de Congolais qui sont à l'étranger.
Parlez du mot estimation, je dis c'est estimé à 8 millions. Ça, ce ne sont qu'une estimation. Maintenant, avec le travail que nous allons faire maintenant avec la CENI, enrôlement qui va commencer dans quelques mois des Congolais étrangers, parce que désormais ils sont électeurs et éligibles. Donc là, on aura des chiffres beaucoup plus affinés. Parce que je ne veux pas raconter des histoires.
Puisque vous parlez déjà de l'enrôlement, comment ça va se faire concrètement avec tous ces Congolais qui vivent à l'étranger?
Oui, il y a des conditions qui sont déjà établies avec la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. C'est être détenteur d'un passeport congolais, être détenteur d'une carte consulaire, et aussi, le passeport, c'est ici, c'est la nationalité. La carte consulaire, c'est que vous êtes reconnu en ambassade. Et 3, la carte de séjour dans le pays où vous habitez. Parce que quand on est congolais, on a une carte de résidence du pays et c'est marqué la nationalité congolaise. Donc il y a ça, il y a tous ces critères-là. Ceux qui ont acquis d'autres nationalités, ceux qui sont devenus belges, américains, français ou autres, bon, pour l'instant, eux, ils ne voteront pas parce que la Constitution ne l'autorise pas. L'article 10 parle de nationalité une et...
On parle de l'irrévocabilité de la nationalité d'origine.
De l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. C'est ce que nous nous battons pour que nous puissions y arriver. Mais ce n'est pas encore fait. Donc, c'est les textes qui doivent être... Bon, il y a les juristes et d'autres qui disent non, il suffit seulement deux. Mais d'autres qui disent non, il faudrait absolument insérer ça dans la Constitution. Donc, cela demandera à ce que nous puissions réviser la Constitution.
Et ça va se dérouler comment? Dans les ambassades?
Oui, dans les ambassades, donc dans les ambassades, parce que bon, c'est pas notre territoire. Là, quand on arrive, le seul endroit de l'extraterritorialité, ce sont nos ambassades et consulats. Donc ça sera dans ces lieux-là, dans un premier temps, que nous allons travailler.
C'est pour quand déjà? Est-ce que vous avez une idée?
Bon, là on est un peu pris, la CENI est un peu prise par cette histoire de dialogue, et avec tout ce que cela entraîne. Mais je pense que... là, on avait commencé avec le nom Oubangui. Je pense que la diaspora, ça sera peut-être dans 3 mois. Le temps de... Il y a quand même beaucoup de choses de préalable pour faire ça, de préparer le terrain. Mais je pense que dans les 3 mois qui viennent, la diaspora, on pourra...
Mais est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord commencer par régler cette contradiction sur la nationalité? On sait que pour la Constitution, la nationalité congolaise est une et exclusive. De l'autre côté, dans les recommandations des concertations, on parle de l'irrévocabilité de la nationalité d'origine. Comment vous allez gérer ce problème?
Si ça ne dépendait que de moi, oui. Mais vous savez, nous sommes dans un monde où il y a aussi des concitoyens qui ne veulent pas qu'on revoie cette histoire de nationalité. Ils veulent que ça reste comme ça. Donc c'est un débat. C'est un débat. Et moi, si ça ne dépendait que de moi, on allait demander au peuple de trancher. Et tous ces débats-là entre politiciens, que je suis le plus fort, je suis le plus faible, je suis ceci, je suis cela, le peuple c'est moi, le peuple ceci, le peuple ça. Mais... comme avait chanté Taboulé à l'époque, ma peuple va juger. Laissez le peuple s'exprimer. Il ne faut pas s'exprimer au nom du peuple. C'est une arrogance méprisable que souvent certains de nos compatriotes politiciens franchissent allègrement. Donc, il y a plein de dossiers, plein de choses dans notre pays où je pense qu'il serait mieux qu'on demande aussi l'avis du peuple. Parce que le peuple peut changer d'avis entre ceux qui l'avaient décidé.
Est-ce que vous faites allusion à un référendum?
Oui, moi personnellement, je dis, comme il y a beaucoup de sujets qui nous divisent, qui nous séparent, la vérité d'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans n'est plus la même qu'aujourd'hui. Moi, je dis, ça n'engage que moi, je dis, concernant cette histoire de la nationalité, je dis, je pense qu'il est temps qu'on demande au peuple de s'exprimer là-dessus. Parce que, vous savez, là, c'est la rentrée scolaire qui vient d'avoir lieu il n'y a pas très longtemps. Si vous avez fait le tour des agences de transfert d'argent, eh bien, c'était rempli des parents qui allaient recevoir l'argent des Congolais vers l'étranger. Alors, ces gens-là envoient l'argent ici. Ça contribue à la paix sociale. Et ça permet à ce que la rentrée scolaire puisse se tenir un peu dans de très bonnes conditions. Et on voulait absolument qu'ils soient exclus de la vie nationale. Donc voilà, c'est un débat. C'est un débat. Peut-être que c'est pas moi qui ai raison. Mais j'aimerais bien qu'on demande un jour au peuple de trancher aussi. Ou à travers directement, ou bien à travers le Congrès. Mais à l'impossible de nous les tenir, ben, j'espère que... le bon sens viendra et puis on décidera là-dessus.
Antoine Boyamba, vous êtes ministre des Congolais de l'étranger, ça veut dire tous les Congolais qui sont en dehors du territoire national. Mais on a l'impression que vous focalisez plus sur l'Occident. Les Congolais qui sont en Afrique se plaignent un peu du fait qu'ils se sentent un peu négligés par les autorités congolaises.
Ils n'ont peut-être pas tout à fait tort à 100%. Ceux qui parlent le plus, c'est plutôt ceux qui sont en Occident. Ils ont plus de moyens de communication, de moyens de beaucoup de canaux, c'est vrai. Ils se sont beaucoup plus agités. Je reconnais cette faute-là. Mais vous savez, je suis dans un gouvernement. Je ne peux bouger que là où on me dit d'aller. De moi-même en tant que membre du gouvernement, de moi-même que je décide que je vais aller demain à Brazzaville, il me faut des autorisations. Donc voilà, c'est ça. Mais j'ai quand même visité...
Vous avez quand même besoin de savoir comment vivre nos compatriotes.
D'accord, mais j'ai quand même visité certains pays africains. J'étais en Ouganda, par exemple. J'étais au Maroc, par exemple. J'étais au Sénégal. J'étais en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas été en Afrique du Sud. Ça,
là aussi, il y a une forte communauté congolaise.
J'aimerais bien aller en Afrique du Sud, oui. Et j'aimerais bien aller au Congo-Brazzaville, si c'est en face, l'Angola. Il y a des fortes communautés là-bas, la Centrafrique, parce qu'il y a des problèmes, ainsi que le Sud-Soudan. Donc voilà, bon, on ne peut pas être partout aussi à la fois. Mais il y a aussi un problème.
On peut programmer quand même.
Oui, mais on est aussi limité par des problèmes budgétaires. Le déplacement d'un ministre,
vous faites quand même beaucoup de voyages en Europe, monsieur le ministre.
Oh, pas tant que ça. Pas tant que ça. Depuis que je suis au gouvernement, c'est pas tant que ça. Je ne voyage pas beaucoup contre moi, ce que vous pouvez imaginer. Non.
Mais comment vous faites pour entrer en contact avec tous ces Congolais?
Bon, j'utilise aussi... Bon, j'ai été en Asie aussi. Hein, j'ai été en Amérique, j'ai été en Asie. Donc, j'ai déjà fait 4 continents sur les 5. Hein. Moi, je n'ai pas été en Océanie. Il y a beaucoup de contacts. Chaque jour, je reçois des communications. Il y a même des fois, j'ai créé des réseaux. Hein, comme on dit en lingala, dans un monde à poteau, j'ai créé des réseaux. Je peux quand même reconnaître que depuis 2 ans bientôt que je suis au gouvernement, la situation s'est accalmée. Il y a eu une accalmie totale sur le front, combattant, bétaki, moutou, salari.
Et c'est grâce à vous?
En tout cas, en partie, oui.
Qu'est-ce que vous avez fait pour calmer un peu ces combattants?
Déjà, c'est par le discours, par le contact. J'ai des contacts directs avec eux.
Avec les combattants?
Avec les combattants, avec nos concitoyens, d'une façon générale.
Vous, du régime, alors qu'ils sont quand même hostiles. Hein?
Ce n'est pas une affaire de régime, c'est une affaire d'approche. Régime ou pas régime, quand on obtient le droit de vote, que vous aimez ou pas le régime, que vous aimez ou pas, vous dites « Ah bravo, vous avez obtenu le droit de vote », ça permettra à ceux qui sont pour le régime de renforcer le régime, ça permettra à ceux qui ne sont pas pour le régime de le faire partir. Donc voilà, ils sentent qu'il y a une certaine neutralité dans l'acte que je pose. Et là, bientôt, ils vont avoir des cartes consulaires. Ils vont avoir les cartes de voyage pour permettre à ceux qui ont acquis d'autres nationalités de voyager, de venir au Congo sans demander de visa. Donc ça, que vous aimez ou pas le pouvoir, c'est quelque chose, ce sont des acquis. Et ils sentent aussi que je me bats beaucoup, j'interviens beaucoup sur le problème des exécutions, j'ai été 2 fois en Inde sur le cas d'assassinat, et je tiens à vous dire, aujourd'hui, à dire à vos auditeurs, que le corps de notre compatriote Cynthia Kadima Véchel, qui a été lâchement assassiné par son mari, revient à Kinshasa la semaine prochaine.
On a senti votre implication.
Dans une semaine, exactement, je me suis battu, l'enfant est rentré ici. Nous l'avons fait inscrire dans une très bonne école, ici au pays, à Kinshasa.
Et c'est le gouvernement qui prendra en charge les prêts scolaires?
En tout cas, le Premier ministre et le chef de l'État se sont impliqués. Et j'ai beaucoup insisté, le ministre Ramonchi Bandatunga Mulongo a beaucoup insisté. Et cet enfant est en train à commencer sa scolarité. Et vous imaginez le drame qui est arrivé à cette petite fille de 8 ans. De voir ses parents, un tuer l'autre, elle a vécu ça. Elle a vu la scène. Alors, elle est rentrée. Bon, sa famille, la famille, ses grands-parents n'ont pas assez de moyens. Mais là, dimanche 18 septembre, la maman de Cynthia et la petite soeur de Cynthia vont se rendre en Inde pour aller...
Prise en charge par l'État?
Prise en charge par nous pour aller récupérer la dépouille de Cynthia.
Alors, monsieur le vice-premier ministre, on dit que vous vous êtes impliqué parce que vous avez vu comment les Congolais se sont révoltés sur les réseaux sociaux. Sinon, l'affaire passerait sous silence.
Madame, le Congolais a toujours tendance à vouloir s'agiter dans tous les sens. J'ai demandé après ça, parce que moi, je me suis parfois lancé des petits défis. J'ai dit, voilà, quand par exemple, les gens disaient « je suis béni », j'ai vu les Maliens à l'époque, il y a longtemps. J'ai vu les Libanais, j'ai vu d'autres pays où, quand il y avait des drames, les gens organisaient des concerts, comme on avait fait pour l'Éthiopie dans les années 85. Organisaient des concerts, organisaient des actions caritatives pour aider les populations dans ces coins-là. Combien de Congolais l'ont fait? Combien? Parce qu'ils s'agitent dans les réseaux. Combien sont dit, ils se mettent en association, pas qu'ils envoient au gouvernement, non, le gouvernement ne demande rien, mais qu'ils envoient un officier à Caritas ou à telle église protestante en disant
moi,
voilà.
Moi, j'en connais qui ont fait ça. Ah, mais moi, le vice-ministre.
Oui, bon, tant mieux, mais moi, en tout cas, je n'ai pas entendu, il faut que je vois les preuves. Donc, quand cette histoire est arrivée, il y a avant ça, quelques mois auparavant, il y a eu le jeune Olivier qui a été assassiné. Puis le gouvernement est intervenu. Nous sommes intervenus. C'est nous qui avons payé le rapatriement. Mais ce n'est pas non plus facile. Combien a-t-il de Congolais? Là encore, il y a une Congolaise et son neveu, une Congolaise de 51 ans et son neveu qui a 22 ans, 21 ans, qui viennent d'être assassinés à Londres, hein, il y a 3 jours. Et il n'y a pas longtemps, un Congolais a tué sa femme congolaise à Londres. Au même moment, un autre a tué sa femme à Bruxelles, à Liège, en Belgique. Alors, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que à partir de ces faits malheureux, qui sont des faits divers à l'origine, mais des faits très graves, des faits malheureux, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'État? C'est ça aussi. Il y a aussi le civisme. Il y a aussi le sens. Un couple qui est assis au salon, dans son appartement, se chamaille, et puis tel prend un marteau, balance sur son mari, le mari tombe. Je dirais, qu'est-ce que le gouvernement a à faire là-dedans? C'est ce que je pourrais dire. Mais nous sommes des humains. On essaie toujours de trouver le juste milieu pour savoir comment on va régler ça. Mais c'est dramatique parce qu'il y a des enfants dans ce genre de choses aussi. On n'a pas à s'agiter. On n'a pas à crier. Ce sont les faits, les actes. Nous, c'est la politique par la preuve. Donc, quand c'est arrivé, l'ambassadeur de l'Inde à Kinshasa a été convoqué. Nous lui avons fait part de nos récriminations. On n'est pas d'accord avec ce qui se passe là-bas. Et on a été sur place en Inde. Madame l'ambassadeur Rosette Mossi, qui est notre ambassadeur à New Delhi, s'est impliquée aussi dans ça. Donc, on était en contact permanent. Moi-même, je me suis déplacé cette année 2 fois en Inde pour voir avec les autorités indiennes. Mais les pauvres autorités indiennes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire si parmi les citoyens indiens, il y a quelques racistes? Voilà. C'est comme ici. Est-ce que tous les Congolais, tous les Kulunas sont des Kulunas? Mais s'il arrivait qu'un citoyen belge ou un citoyen américain tombe entre les griffes des Kulunas, est-ce qu'on doit jeter l'opprobre sur tous les Congolais? Donc voilà, dans toutes les sociétés, il y a ce qu'on appelle, moi je pourrais appeler les rebuts de la société. Et bien voilà, moi je demande simplement à ce que les gens aient raison gardée avant le sang-froid. Quand les gens éruptaient sur les réseaux sociaux, mais nous on agissait, même sur certaines chaînes de télévision ici, on racontait tout et n'importe quoi.
Alors on va revenir un peu sur le phénomène combattant. Vous estimez heureux de voir que le climat s'est beaucoup apaisé avec depuis que vous êtes à la tête de ce ministère. Est-ce que ça veut dire que le contact est maintenant facile avec les combattants?
Ce sont mes frères. Moi j'ai longtemps vécu en Europe. Certains qui sont là, ce sont des gens avec qui, jeunes, on allait dans des concerts. Concert de Zaïko, concert de Papa Emma qui arrive. Oui, Papa Emma va jouer à Paris ou à Bruxelles. C'est des gens avec qui on a toujours vécu. Nos enfants se connaissent. Donc voilà, c'était, je pense, et les plus jeunes, ce sont des gens qui ont l'âge de mes enfants. Donc il n'y avait pas de problème. Je suis le frère, je suis le papa, je suis l'oncle. Donc je vais plus d'abord par cette approche-là, leur expliquer un certain nombre de choses parce que leur vécu, c'est aussi le mien, j'ai vécu ça. Et je suis là, je sais dire, voilà, au pays, c'est comme ça, et ici, c'est comme ça. Qu'on échange, qu'on discute avec eux. Et c'est ça l'approche que moi, j'ai
Donc vous
j'ai
comprenez
eu.
Un peu leur réaction, un peu comme vous à l'époque du maréchal?
Oui, mais oui, justement, je comprends leur réaction, mais simplement ce que je leur ai dit, nous, à l'époque du maréchal, on n'a jamais jeté le cocktail Molotov sur l'ambassade. Parce que l'ambassade n'appartient pas au maréchal. L'ambassade n'appartenait pas au président Kassavubu. L'ambassade n'appartient pas au président Kabila. L'ambassade n'appartient pas à M. Antoine Boyamba. L'ambassade appartient à tous les Congolais. Alors, pourquoi est-ce que toi, tu te donnes le droit de balancer un cocktail Molotov qui va brûler une ambassade, un bâtiment qui appartient à 80 millions de Congolais? Donc voilà, c'est un peu ce discours-là aussi de l'initiation à la citoyenneté pour leur dire, voilà, vous avez des droits. Mais voilà. Et ceux qui sont les plus politisés, je leur ai dit, comme vous avez la prétention d'aimer les Congolais plus que nous, eh bien, transformez-vous en parti politique. Et quand il y aura les élections, vous allez demander le suffrage des Congolais. Et on va voir qui de vous et de nous avait raison. Et a raison. Et c'est le peuple qui va juger. Et c'est le peuple qui va départager.
Ils ont accepté de faire ça?
Un certain nombre, oui. Il y a d'autres à qui j'ai envoyé des invitations, qui sont en train de venir à Kinshasa, pour aller essayer de faire agréer leur parti au ministère de l'Intérieur.
Est-ce que vous parlez des combattants, mais de majorité, ou des combattants,
Il n'y a pas de combattants, mais de majorité. Il y a des Congolais, ou des combattants, mais d'opposition. Il y a des Congolais qui, pour des raisons X, Y, se sont dit, on n'est pas d'accord sur telle option de la République. Voilà. Et c'est avec eux qu'on discute. Il n'y a pas pour ou contre. Nous discutons avec les compatriotes, tout compatriote, qui exprime des choses par rapport à ce qui se passe au pays ou qui se passe dans nos ambassades et consulats. Et ça, c'est pas une affaire. Écoutez, moi, je suis au gouvernement. J'ai dû intervenir fortement pour que ma mère puisse avoir son passeport. Mais tant qu'elle n'avait pas son passeport, elle ne pouvait pas faire sa carte de séjour. Est-ce que c'est une affaire de pro ou anti-pouvoir? Voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est que c'est notre devoir à nous, gouvernants, de faciliter la vie de nos compatriotes.
Et donc aujourd'hui, les autorités congolaises peuvent s'y rendre en Europe, surtout France, Belgique, Londres, sans crainte.
En tout cas, jusque-là, ça se passe sans problème. Mais on ne peut jurer de rien. Vous savez, aux États-Unis, c'est très policier hein, comme État. Mais c'est aussi l'État où il y a le plus de crimes. Quand vous allez à New York, on vous dit qu'on tue les gens toutes les 2 ou 3 minutes. Et pourtant, la police est très présente à New York. Donc, moi, je dis, le climat est apaisé, mais je ne peux pas dire qu'il n'y aura jamais de soucis. Ça, je ne peux pas dire. Depuis que le monde est monde, depuis le premier crime commis, celui de Caïn qui a tué son frère Abel, c'est dans la Bible, il y a toujours eu des crimes dans le monde. Donc, je ne jurerai de rien, mais je dis simplement, le climat s'est apaisé. Et ça, personne ne peut remettre ça en cause.
Alors, il y a un grand forum qui se tient en ce moment au pays. C'est le dialogue, la diaspora est représentée. Est-ce que c'est le ministère qui a fait le choix des représentants des Congolais de l'étranger à ce dialogue?
Non, ce n'est pas le ministère qui a choisi les participants au dialogue. Malheureusement, parce que nous, au moins, on a une banque de données. On a une banque de données où on connaît les uns les autres sur tous les continents. Sur les 5 continents, nous savons qui joue d'une certaine influence. Mais malheureusement, on a mis la diaspora dans la société civile, et à ce que je sache, pendant les 10 années où on tabassait les autorités, on tabassait les journalistes et les musiciens, je n'ai jamais entendu une quelconque société civile, une église, un groupe, je ne sais pas quoi, lancer des appels au calme. Je n'ai jamais entendu ça, et curieusement, pendant le dialogue, ce sont eux qui sont arrogés le droit de dire, voilà, c'est nous qui allons choisir les délégués au dialogue. Et je trouve ça c'est risque de créer un climat lourd dans la diaspora. Et je sais de quoi je parle parce que beaucoup sont venus vers moi pour me dire, monsieur le ministre, qu'est-ce qui se passe? Vous nous avez trompés parce que vous étiez venus nous voir, vous nous avez parlé du dialogue. Nous avons fait des déclarations dès le mois de janvier 2016. Pour dire, voilà, nous soutenons le dialogue. Il y avait des combattants qui ont fait des déclarations pour dire qu'ils soutiennent le dialogue, ils veulent venir au dialogue. Et voilà que le dialogue a été lancé, et bien ils n'ont pas été invités. Et ils se sont retournés vers moi pour me dire leur mécontentement. Vous voulez que je fasse quoi? Donc c'est ça aussi le problème qu'il y a ici à l'intérieur du pays. Tout le monde s'arroge. Il y a ce que je pourrais appeler l'armée mexicaine qui n'arrivait sur le lieu de bataille qu'après la guerre. Donc, sur le champ de bataille, après que la bataille est terminée, on voyait venir avec la grande cavalerie. C'est ce qui se fait ici. La société civile, pour moi, est une entité à part. Elle est, la diaspora, elle est politique. La diaspora, ce n'est pas la société civile. La diaspora pose des actes politiques. Donc, on devait prendre ça en compte. Parce que ce sont des gens qui vont voter. Hein, on aura à peu près, je pense, dans les 3-4 millions d'électeurs. Donc, ce sont des actions politiques. Ce n'est pas une affaire d'une église ou d'un groupe de syndicalistes. Ça n'a rien à voir.
Ils ont manifesté déjà leur mécontentement.
Ah oui, ils ont raison. Et ils ont raison. Ils ont raison de manifester. Ils ont raison de manifester. Et ils ont l'impression qu'on les prend pour des vaches à lait. Je pèse bien mes mots.
C'était un plaisir, Monsieur le vice-ministre Antoine Boyamba, de vous recevoir dans cette émission. Vous avez peut-être un dernier mot à tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment. Surtout ceux de la diaspora.
Oui, ce que je veux simplement dire, le Congo est une terre que Dieu nous a donnée. Prenons-en soin. Ne nous lançons pas dans des invectives. Évitons de nous tirer dessus les uns les autres. Là, on entend ici et là qu'il y a des groupes de gens qui veulent créer des troubles ici à Kinshasa, la capitale. Vous imaginez une ville de 12 millions d'habitants. Et j'appelle à ce que la conscience des uns des autres. Nous sommes dans un pays, dans une ville où tout le monde se dit chrétien. Eh bien, si vraiment nous sommes des chrétiens, allons dans nos différents lieux de culte et faisons même des séances communes de prière pour que la sagesse tombe sur chacun d'entre nous et que dans les jours, les mois qui viennent, que les Congolais soient inspirés pour leur développement et que le jour où on aura les élections, les élections soient des élections apaisées et justes.
Merci, monsieur le vice-ministre Antoine Boyamba, ministre des Congolais de l'étranger. Merci à Paul Badianyama qui était à la prise de son, micro Kéline Couté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapille.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sous la fréquence de la paix.